Frères et sœurs, une feuille a son recto et son verso. Une pièce de monnaie a son côté pile et son côté face. Eh bien, la solennité de l'Épiphanie a aussi deux faces. La solennité de l'Épiphanie a aussi deux faces. Or, on a souvent l'habitude de ne la contempler que d'un seul côté. Et je voudrais aujourd'hui, avec vous, en contempler aussi la face la moins connue. La première face, c'est une nouvelle inouïe. Le Messie d'Israël est aussi le sauveur des païens. À travers les mages qui viennent adorer, ces mages païens qui viennent adorer Jésus, nous découvrons que toutes les nations, tous les peuples sont appelés à reconnaître Jésus. Pas seulement le peuple d'Israël, tous les peuples, toutes les nations sont appelés à reconnaître Jésus, le Messie d'Israël, comme l'unique sauveur, comme celui qui étend son salut à toute l'humanité. Les mages païens viennent se prosterner devant lui. C'est un hommage que l'on ne rend qu'à Dieu. Et ils ont fait pour cela une longue route. La portée de cette nouvelle est double. Elle signifie que Jésus est vraiment celui que tous les hommes ont à rencontrer. Et donc elle justifie le fait que nous parlions de Jésus, que nous l'annoncions à tous, à tous les peuples. Qu'il est celui, d'ailleurs, que leur questionnement philosophique leur fait rechercher par leur quête de la vérité. Qu'il est celui aussi à l'origine de ce monde dont les scientifiques s'émerveillent en découvrant les secrets. Les mages sont venus à Jérusalem parce qu'ils ont vu cette étoile se lever et qu'ils ont reconnu pas simplement un phénomène astronomique, mais un signe de Dieu qui se révèle. Il y a également un sens personnel, un sens qu'on pourrait qualifier de moral de cette première phase de l'Épiphanie. Il est celui qui vient toucher, convertir, éclairer tout notre être, même ce qui demeurait païen en nous. Parce que nous nous en rendons compte dans notre vie, si vous êtes là, c'est qu'il y a une partie de votre vie qui dit « Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Seigneur, je veux recevoir ta grâce pour aimer comme tu aimes. Je veux te faire connaître autour de moi. » Et puis, nous voyons aussi qu'il y a une part dans notre être qui résiste, qui trouve que le Seigneur, franchement, il veut prendre trop de place. Il ferait bien de nous laisser un peu tranquilles, qui peut même être une gêne ou un obstacle à notre vie. Seigneur, éloigne-toi un peu de moi. Et voilà que l'Épiphanie manifeste que tout notre être est bien appelé à être illuminé par la révélation de Dieu en Jésus. Et que cette illumination, justement, est un événement profondément heureux de notre existence. Comment cela ? Eh bien, vous avez vu quelle est la qualité des présents que les mages apportent. Ils apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, un parfum précieux. Voilà qu'ils se départissent de possessions qui valent très cher. Peut-être qu'ils ont mis des années à acquérir. Et ils s'en départissent devant l'enfant Jésus. Ça veut dire qu'ils ont trouvé en lui bien plus que ce qui était jusqu'à présent si précieux à leurs yeux. Et c'est le signe pour nous justement que là où nous éprouvons cette résistance à dire « Mais Seigneur, non, tu prends trop de place, laisse-moi un peu vivre à ma façon. » Eh bien, ce n'est pas... Le Seigneur ne nous promet pas, j'allais dire simplement, de la peine et des larmes, mais il nous promet une joie profonde. C'est ce que Jésus dira par la suite. « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Voilà que les mages en ont fait l'expérience, et c'est ainsi qu'ils peuvent laisser ces cadeaux si précieux aux yeux des hommes, parce qu'ils ont trouvé en la présence de Jésus bien plus. Il y a donc cette première face de l'Épiphanie, mais il y en a une deuxième. La deuxième face de l'Épiphanie, c'est le massacre des enfants de Bethléem, ceux que l'on appelle les saints innocents, ceux que le roi Hérode fait mettre à mort. On l'a dit, on l'a entendu, il leur demandait « Quand vous l'aurez trouvé, venez me dire où il est, que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Son intention n'est pas de se prosterner devant lui, mais de le faire mettre à mort. Et quand les mages repartent par un autre chemin, eh bien, ne prenons pas de risque, entre guillemets, faisons tuer tous les enfants dans une fourchette de quand l'étoile est apparue. Ce massacre est en rapport direct avec la venue des mages, et il serait un peu naïf de notre part d'ignorer que, autour de l'épiphanie, il y a ces deux événements, la révélation du salut pour les païens, mais aussi la manifestation d'une opposition, une opposition meurtrière. C'est la phase douloureuse de l'épiphanie. Au moment même où le Dieu fait chair nous révèle son visage, une opposition meurtrière se dévoile. Une opposition à qui il est insupportable que l'enfant de Bethléem soit reconnu comme notre roi et notre Dieu, et qu'il attire à lui tout ce qui était païen, tout ce qui était encore dans les ténèbres. Une opposition meurtrière se dévoile contre le passage des ténèbres à la lumière. Et cette opposition meurtrière distille aussi un fruit de désespoir. Si vous allez regarder ce chapitre 2 de saint Matthieu, vous entendrez le cri de Rachel dans Rama qui pleure et qui ne veut pas être consolée car ses enfants ne sont plus. Elle pleure et ne veut pas être consolée. Sa douleur semble l'engloutir, la rendre aveugle ou sourde à toute consolation. L'épiphanie apparaît ainsi non pas comme une contemplation un peu béate et naïve d'une heureuse nouvelle pour tous, mais comme une contemplation à la fois émerveillée et grave du salut assurément pour tous, mais qui rencontre une opposition farouche. Cependant, la deuxième phase de l'épiphanie ne s'arrête pas à la mention du massacre, au dévoilement de l'opposition. Les petits-enfants de Bethléem massacrés sont appelés les saints innocents. Pas seulement les innocents, mais les saints innocents. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on les qualifie de saints innocents, on révèle ainsi qu'ils ont eu une part dans l'œuvre de salut de Dieu. Et si quelqu'un est saint, ce n'est pas simplement qu'il est mis à part pour Dieu, c'est qu'il a participé et qu'il participe à l'œuvre de salut. Or, il y a une chose un peu étonnante, c'est que qu'ont fait les enfants de Bethléem? Ils n'ont pas fait des choses extraordinaires ou tapent à l'œil aux yeux des hommes. Ils ont juste pu offrir leur fragilité avec le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, en union avec le Seigneur Jésus. Voilà que leurs peines, voilà que leurs souffrances ont été transformées en sacrifice. Ça veut dire quoi, sacrifice? Sacrifice, faire sacré. C'est-à-dire que dans les mains de Jésus, elles ont été investies d'une grâce de salut pour le monde. Là où apparemment c'était stérile, là où apparemment il y avait juste une vie trop tôt arrachée, il y a une grâce de salut pour le monde. Et donc cette deuxième phase de l'épiphanie, elle nous apprend aussi à faire de nos épreuves, à transformer nos épreuves en un sacrifice, en une chose sacrée, à les faire sacrées. Et ce, en particulier lorsque nous sommes ou lorsque nous nous sentons les plus petits, les plus malades, les plus handicapés, souffrant dans notre corps ou souffrant dans notre psychisme. Ce petit signe de persévérance ou de confiance, ce matin je me suis encore levé alors que je voulais ne plus bouger, je ne pensais pas que la journée pourrait m'apporter quoi que ce soit. Cet effort de confiance, ce moment où, dans ma détresse pourtant, j'ai pris des nouvelles d'un autre, j'ai peut-être même intercédé pour lui. Ces choses qui peuvent sembler tout petites, mais qui ont été le fruit d'un grand combat pour celui qui est dans la souffrance ou dans la peine, si elles sont mises dans les mains du Christ, elles deviennent œuvre de salut dans ses mains. Et elles portent un fruit de transformation des cœurs, un fruit de paix, un fruit de persévérance, un fruit de courage, qui seront déposés dans le monde. Peut-être que vous n'avez jamais prêté trop attention aux deux fresques qui sont dans la chapelle de Notre-Dame du Travail, où vous avez deux processions, une procession à gauche, des gens qui viennent avec le fruit de leur travail. Ils ont pleine capacité à transformer le monde, ils ont la bonne santé, ils ont le bon savoir. Et de fait, le travail, leur travail, le fruit de leur travail est présenté, conduit à l'ange pour être présenté à l'autel de Dieu. Mais il y a une autre procession sur votre droite, de tous les indigents, des malades, des orphelins, des pauvres, des prisonniers, de ceux qui n'ont rien d'autre que leur faiblesse, parfois leur souffrance, leur fragilité à offrir, et qui pourtant, elles aussi, offertes, sont portées par l'ange jusqu'à l'autel de Dieu et portent un fruit de vie. La solennité de l'Épiphanie est une solennité précieuse. Elle nous révèle à la fois que Jésus est vraiment le Sauveur de tous, et elle nous apprend aussi, face à l'opposition farouche du dévoilement de Jésus comme Sauveur, à offrir et à transformer nos épreuves et notre souffrance, non pas en un moment stérile où on nous a arraché la vie et nos capacités, mais en un moment où nous pouvons mystérieusement, dans les mains du Christ, avec les saints innocents, porter un fruit de vie, un fruit de courage, un fruit de persévérance, un fruit de conversion pour le monde. Que les deux faces de l'Épiphanie nous ouvrent à cette espérance du salut pour tous et pour toutes les facettes de notre vie. Qu'elle nous ouvre au combat que cette révélation suscite en nous apprenant à offrir en sacrifice, à faire sacrer nos épreuves, car elle participe ainsi à l'œuvre du salut opérée par le Christ. Amen.